Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Stern, bonjour, merci de nous recevoir dans votre bureau à l'École Normale Supérieure.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur ici à l'École Normale Supérieure, vous êtes également donc directeur du laboratoire d'informatique ici, et vous avez rédigé il y a quelque temps déjà un livre intitulé « La science du secret » publié aux éditions Edith Jacob en 1997, mais qui est toujours d'actualité. Alors, nous avons reçu il y a quelque temps Christophe Soulet et Olivier Pironneau de l'Académie des sciences, avec qui nous avons réalisé une première émission sur la cryptologie, avec vous, Jacques Stern, puisqu'ils n'ont cessé de vous citer dans cette émission. Avec vous, Jacques Stern, nous allons pouvoir parler plus en détail de l'histoire de la cryptologie. Alors, vous m'avez dit avant de commencer cette émission que ce n'était pas spécialement votre spécialité, pour le coup, mais c'est vrai que ça occupe quand même une grande partie de votre livre. Donc, nous allons pouvoir parler de l'histoire de ces messages secrets, comment, au fil du temps, les êtres humains ont réussi à pouvoir faire des messages secrets de plus en plus sophistiqués. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous intéressait dans l'écriture de ce livre, Jacques Stern ?
Oui, j'ai dit que c'était pas ma spécialité, mais c'est très important, malgré tout, qu'un scientifique réfléchisse à l'origine de la science dans laquelle il est en train d'exercer. Nos connaissances, elles viennent pas de nulle part. Nous sommes les héritiers de ce qui a été fait tout au long des siècles. Donc, quand j'ai écrit le livre sur la cryptologie, sur la science des messages secrets, ce qui m'intéressait naturellement, c'était de faire comprendre ce qu'était la cryptologie, c'était de faire comprendre à quoi elle servait aujourd'hui. Mais pour cela, il était absolument indispensable d'abord d'expliquer la genèse de cette science, et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors, dans ce livre, donc dans cette première grande partie, vous avez découpé cette première grande partie en trois sous-parties que vous nommez l'âge artisanal, l'âge technique et l'âge paradoxal. Alors, à quoi correspondent ces périodes, Jacques Stern ?
L'âge artisanal, ça correspondait à ce temps qui était extrêmement long, parce que ces trois périodes ne sont pas du tout de la même durée, ce temps qui était extrêmement long où, en somme, on était un artisan, on travaillait avec ses mains ou avec un crayon et un papier, et on travaillait avec des instruments simples. L'âge technique, c'est le moment où on a substitué à ces instruments simples des instruments complexes qui s'appuyaient sur la technologie, donc c'est l'apparition des machines chiffrantes. Et ce que j'ai appelé l'âge paradoxal, eh bien, c'est ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'irruption pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se sont véritablement posés, l'irruption de méthodes mathématiques et qui ont vraiment apporté la solution de questions qui étaient en forme de paradoxe.
Alors, nous allons nous intéresser à ces trois grandes périodes. Avant de commencer et d'entrer plus en détail dans ces questions de messages secrets, peut-être pourriez-vous nous préciser quelle est la différence entre cryptologie et cryptographie ?
Alors, pendant longtemps, tous ces mots étaient synonymes, mais aujourd'hui, on réserve le mot de cryptologie pour la science dans son ensemble, la science du secret. La cryptographie, c'est les méthodes qui permettent de proposer des mécanismes qui garantissent le secret, ou d'ailleurs d'autres fonctionnalités, parce que c'est un peu plus large que simplement le secret. Et la cryptanalyse, bien, c'est l'attaque, c'est essayer de mettre en défaut ces protections.
Mais cryptanalyse, en fait, ça va être piraté, en fait.
Oui et non. Dans l'histoire, c'était souvent piraté, c'est-à-dire arriver à faire des choses ce que les concepteurs de code n'imaginaient pas, de manière à prendre un avantage stratégique ou compétitif. Aujourd'hui, c'est plus ça. Si je dis aujourd'hui que je fais de la cryptanalyse, ce serait plutôt dans un esprit amical pour tester les propositions de mes collègues et puis bien vérifier qu'elles sont à l'état de l'art. C'est comme un crash test, si vous voulez.
Alors, nous allons passer plus en détail à cette partie de l'âge paradoxal. Dans les premières pages de votre livre, vous démarrez par l'histoire des Égyptiens et des hiéroglyphes, certains hiéroglyphes curieux, également des textes cunéiformes. Alors, est-ce que déjà à cette époque-là, on avait en tête de coder certains messages ?
Moi, j'ai le sentiment que dès l'instant où on a commencé à écrire, eh bien, et à confier ce qu'on écrivait à des messagers, pas seulement à le garder sur soi, eh bien, immédiatement, on s'est posé le problème de la confidentialité de ce qu'on transmettait. Et donc, immédiatement, on a essayé de proposer des méthodes de cryptologie. Et bien entendu, ce que je dis n'est pas prouvé. Donc, les allusions que j'ai faites dans mon livre de la cryptologie dans des textes cunéiformes, eh bien, ce ne sont que des hypothèses, mais des hypothèses qui ont été faites avant moi par des historiens.
Mais alors, à cette époque-là, c'est plus du ressort de la devinette que du véritable codage, si ?
À cette époque-là, c'est sans doute à mi-chemin entre la devinette et la fonction religieuse. Il n'était sans doute pas très difficile d'arriver à recouvrer le texte clair, mais il y avait aussi tout un aspect symbolique. Mais la devinette, ça s'est poursuivi pendant pas mal de temps. Bien sûr, on reste dans l'Antiquité, mais il y a eu pendant assez longtemps des méthodes dont on s'amuserait aujourd'hui.
Vous parlez du côté religieux. Vous citez toujours dans votre livre « La science du secret » que dans la Bible, dans la Genèse, Joseph est qualifié de déchiffreur des mystères. Alors, est-ce que ça laisse présager déjà une première période de la cryptologie ?
Si on remonte aussi loin, alors c'est vrai que la cryptologie ne va pas être considérée comme elle l'est aujourd'hui, comme simplement une science à part entière. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer de la rapprocher de la numérologie. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont fait des exégèses avec des nombres qu'ils ont trouvés ici et là. Et donc, la cryptologie ou un remplacement d'un mot par un mot moins usité, c'était peut-être effectivement ce même type de fonction symbolique et rien de plus.
Il est quand même curieux que de ce côté ésotérique, il en ressortira plus tard une véritable science, la science des nombres, la science de la cryptologie.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une filiation directe entre le côté ésotérique de la cryptologie, que je ne cherche pas à nier, et ce qui se fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a une filiation directe avec des événements historiques postérieurs. Pour le reste, j'ai rapporté ces éléments qui sont un petit peu ésotériques parce que ça me semblait intéressant et parce que d'autres en ont parlé également. Donc c'est un thème qui est un sujet de discussion.
Alors, toujours pour vous citer, vous parlez aussi du support qui peut changer. Lorsque l'on écrit un message, on peut utiliser par exemple le crâne d'un esclave. Vous citez là Hérodote qui reprend un épisode de la vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cet épisode d'Hérodote ?
Ah oui, alors l'épisode, ça consiste à cacher un message secret de la façon suivante. On rase le crâne, nous sommes dans l'Antiquité, d'un esclave, et on inscrit quelque chose, on laisse, c'est un peu long, mais on laisse les cheveux repousser, et donc cet esclave messager va porter son message, et à l'arrivée, eh bien, on récupère le message en le rasant à nouveau. Plus sérieusement, c'est quelque chose qui s'est poursuivi pendant beaucoup de temps. L'idée de cacher simplement le contenu du message sans transformer ce contenu. Et ça a même pris avec le temps un nom. Encore une fois, tous les mots étaient plus ou moins synonymes au départ, mais ça a pris le nom de stéganographie. Et aujourd'hui, on parle de stéganographie quand on cache à l'intérieur d'images un message, un tout petit message, un message subliminal.
Voilà, ce que j'allais dire, ça correspondrait aux images subliminales dont on a tant entendu parler il y a un certain temps.
Absolument.
Alors, un autre exemple de stéganographie, comme vous venez de nous le dire, c'est la citale lacédémonienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la citale ?
Là, on est déjà plus près de la cryptographie, puisque la citale, c'est un dispositif où on enroule un papyrus en spire jointive sur une sorte de bâton. Et on écrit transversalement. Donc après, on déroule le papyrus et pour lire, il va falloir le remettre en spire sur un bâton de même diamètre. Donc là, il y a presque une quantité secrète qui permet l'échange, qui est la taille de l'objet sur lequel on va enrouler le papyrus.
Et là, je suppose que ça a dû servir dans des messages pour des guerres ou dans des situations bien particulières ?
Moi, j'y croyais à l'époque où j'ai écrit mon livre. Alors, entre-temps, apparemment, j'ai constaté, en discutant avec d'autres spécialistes, plus des historiens de la cryptologie que moi, qu'en fait, c'était controversé. On n'est pas tout à fait sûr que cet objet ait existé, mais c'est tellement simple de penser qu'il a existé, donc d'autres auteurs l'ont rapporté, que moi, je continue à y croire.
Il ne nous reste pas des restes justement de Sittel.
Non, pas à ma connaissance.
Alors, quand arrive réellement la cryptographie ? C'est au moment de Jules César ?
Je ne crois pas qu'on puisse parler déjà de cryptographie au moment de Jules César. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait au moment de Jules César un savoir-faire. Jules César, pendant la guerre des Gaules, des textes latins l'attestent, a utilisé un mécanisme de... on pourrait appeler un mécanisme de chiffrement qui consistait à décaler chaque lettre de 2 ou 3 crans dans l'alphabet. Alors, c'est extrêmement simple et ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais apparemment ça a été véritablement utilisé par César.
Et c'est ce qu'on appelle, je crois, l'alphabet de Jules César.
On appelle ça le chiffre de César, tout à fait. Et c'est encore quelque chose qui est ce qu'on pourrait enseigner dans les premières minutes, voire les premières secondes d'un cours de cryptologie.
Alors, on va avancer un peu dans le temps. On arrive au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, où là, il va y avoir carrément des dynasties de cryptanalystes, de personnes qui vont s'atteler à cette tâche, des mathématiciens, je suppose.
Oui, mais avant d'arriver au XVIe siècle, moi, j'ai envie de m'arrêter un petit peu au IXe siècle, et on ne va pas être dans l'Occident, mais on va être dans le monde arabe. Et effectivement, on a retrouvé il y a quelques années, il n'était pas perdu, mais personne ne s'était occupé d'archiver et d'étudier sérieusement ce texte, on a retrouvé un manuscrit du milieu du IXe siècle d'un philosophe et savant arabe qui s'appelle Al-Kindi. Et ce manuscrit est un vrai manuscrit de cryptologie. Donc, on a longtemps cru que la cryptologie était apparue ou réapparue en Occident à peu près à la Renaissance. Eh bien, là, on a la preuve que ça n'est pas le cas. Et très vraisemblablement, le cheminement s'est fait par l'Espagne pendant la conquête arabe jusqu'aux États pontificaux. Les États pontificaux, la curie romaine, étaient de grands consommateurs de cryptographie. Et on comprend bien, ils avaient à entretenir un grand réseau de diplomates, de nonces, et ils devaient correspondre avec tous ces gens-là de façon sûre.
Qu'est-ce qu'on y trouvait alors dans ces textes ?
Eh bien, on y trouvait les méthodes de défense et d'attaque qu'on connaissait à l'époque. C'est ce que j'ai appelé artisanal, donc dans mon livre. Pour la défense, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on prenait un texte, on faisait, comme César, des substitutions de lettres, mais un peu plus compliquées. Et on faisait également ce qu'on appelle des transpositions, qui sont l'analogue des anagrammes que chacun de nous a fait dans son enfance. Et si on enchaîne plusieurs de ces opérations, eh bien, on arrive à un texte chiffré qui peut être assez compliqué. Alors, il y avait aussi l'attaque. L'attaque, c'était quoi ? C'était le début d'attaque par ce qu'on peut appeler en termes modernes des fréquences statistiques. Donc, les fréquences d'apparition de lettres dans un texte, des fréquences d'apparition de 2 lettres qui suivent, qu'on appelle des digrammes, et ainsi de suite. Et dans les ouvrages, celui de Al-Kindi ou celui postérieur de Alberti, donc considéré comme le premier ouvrage écrit en Occident, un ouvrage qui est un manuscrit, qui doit être daté postérieurement à l'invention de l'imprimerie, mais il n'est pas imprimé. Eh bien, dans ces ouvrages, il y avait ces règles de cryptanalyse qui permettent de venir à bout de tel ou tel mécanisme de chiffrement.
Est-ce que nous avançons jusqu'au XVIe siècle ou est-ce qu'il y a certainement peut-être encore une étape intermédiaire entre le IXe et le XVIe siècle ?
Avançons jusqu'au XVIe siècle.
Il ne se passe rien entre le IXe et le XVIe ? Est-ce qu'il y a des avancées particulières ou justement c'est peut-être abandonné l'idée de crypter ces messages ?
Je pense que ça n'était pas abandonné. J'imagine que l'exposé d'Al-Kindi nous montre qu'il y a eu toute une évolution entre ce qui se passait du temps de César et ce qui s'est passé ultérieurement. Cette évolution, je ne suis pas sûr qu'on en ait gardé la trace. Je ne suis pas tout à fait expert de ce domaine, mais je n'ai rien lu qui me permette de penser qu'on en a gardé la trace. Mais il est vraisemblable que dans l'Empire d'Occident, comme dans l'Empire d'Orient, les connaissances cryptographiques se sont maintenues et qu'elles sont réapparues ensuite, cette fois-ci dans le monde arabe.
Alors, au XVIe siècle, nous revenons en Occident. Au XVIe siècle, apparaissent des dynasties de mathématiciens, des familles entières, qui vont se spécialiser dans la cryptographie. Comment on explique ce regain soudain pour la cryptographie et qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Je crois que le regain, c'est un regain dans toutes les sciences à cette époque-là. Donc, il est normal que, comme on avait, au fond, ce qu'on pourrait presque appeler en termes modernes, une communauté scientifique, bon, un très petit nombre de gens, bien sûr, à l'époque, pas comme aujourd'hui, mais malgré tout, des gens dont l'activité principale était de nature scientifique, eh bien, il était normal qu'on puisse leur confier des travaux de cryptographie. Ces experts en cryptographie de l'époque, ils étaient souvent des scientifiques d'autres disciplines. Ils étaient souvent aussi, par exemple, des mathématiciens ou des physiciens.
Alors, vous faisiez référence à deux familles, les Argentiers et les Rossignols. Est-ce qu'on a gardé des traces de leur passage à ce siècle ?
Ah oui, je crois que pour les Rossignols, on a gardé des traces. Oui, ils sont mentionnés par les historiens de l'époque, mais enfin, c'est une période qui est quand même pas si ancienne. Alors, quant aux dynasties, eh bien, bon, c'est assez naturel. Il y avait un savoir-faire. Ce savoir-faire, il devait quand même être confidentiel parce que malgré tout, il s'agissait d'aider les puissants à garder leurs secrets ou d'aider les puissants à découvrir les secrets de leurs cousins qui régnaient dans d'autres cours. Ce savoir-faire, il se transmettait de père en fils. On était cryptologue de père en fils, comme peut-être on était aussi forgeron de père en fils.
Et donc les Rossignols travaillaient pour les rois, donc Louis XIII et Louis XIV.
Oui, tout à fait. Les Rossignols travaillaient pour les souverains de la cour de France.
On avance encore dans le temps, on arrive au XIXe siècle, où là, apparemment, c'est une avancée, apparemment, au XIXe, il y a une révolution, puisque dans votre livre, vous faites référence à un officier prussien, Friedrich Kaczynski, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, qui va révolutionner la cryptographie, puisqu'il expose dans un traité les méthodes structurées de la cryptanalyse.
Oui, le XIXe, c'est une période de très grande connaissance scientifique. Si on regarde le développement des mathématiques au XIXe siècle, c'est déjà extrêmement considérable. Et donc, dans le domaine de la cryptographie, j'ai effectivement mentionné Friedrich Kaczynski parce qu'il a donné des méthodes extrêmement modernes, des méthodes très générales pour attaquer certains mécanismes de chiffrement. Mais on peut mentionner aussi August Kerckhoffs, qui est un linguiste flamand, et qui a publié un article fondateur en français en 1883 qui s'appelle « La cryptologie militaire » et dans laquelle il énonce un certain nombre de règles, dont la première, qui est toujours d'actualité, Kerckhoff nous dit « Le chiffrement doit pouvoir tomber sans inconvénient aux mains de l'ennemi ». Il voulait dire, ou du moins il a dit, le mécanisme de chiffrement. Donc c'est quelque chose de très important. Et pragmatique, parce que de temps en temps, le mécanisme tombait effectivement aux mains de l'ennemi.
Alors, vous parlez de chiffrement, on va venir à cette machine, la machine à chiffrer. Et alors, c'est ce qui est assez amusant, et encore le mot est très mal choisi, c'est qu'à chaque fois, ce sont les guerres qui permettent d'évoluer dans les domaines scientifiques. Et là, la période de la guerre de 14-18 va permettre une grande avancée concernant ces fameuses machines.
Oui, il n'y a pas que la cryptologie qui avance pendant les guerres. Apparemment, la chirurgie a beaucoup avancé aussi pendant la Première Guerre mondiale. Mais je voudrais dire que la liaison, la proximité entre la cryptographie et les guerres, c'est quelque chose de très conjoncturel. Auparavant, dans l'histoire, la cryptologie n'était pas particulièrement liée aux guerres, et de nos jours, elle ne l'est plus. Cela étant dit, revenons à la Première Guerre mondiale. Eh bien, effectivement, la Première Guerre mondiale a montré qu'il y avait de véritables besoins de protéger les communications. Elle a montré de façon presque négative, parce qu'il y a eu un certain nombre de cas où des défaites ont été consécutives à une mauvaise protection des messages. Donc c'est juste après la Première Guerre mondiale que la technologie était mûre et qu'on a commencé à fabriquer des machines chiffrantes. C'est-à-dire qu'on est passé de l'âge artisanal où l'opérateur était forcément limité par son papier et son crayon, sa mémoire et sa capacité ou sa promptitude à faire des erreurs. On est passé de cet état à l'utilisation de machines, évidemment avec beaucoup moins d'erreurs et donc des opérations potentiellement beaucoup plus complexes.
Et donc qui correspond à l'âge technique, qui est la deuxième sous-partie de votre livre.
Moi, j'ai appelé ça l'âge technique, effectivement, à partir du moment où il y a des machines qui sont apparues.
Alors, j'ai envie de vous poser une question concernant le morse. Est-ce que le morse entre aussi dans cet âge technique ou est-ce que c'est plutôt l'âge artisanal ? Ou est-ce que d'ailleurs ça fait partie de la cryptologie, de la cryptographie ?
Le morse, ça n'est pas de la cryptographie, c'est simplement un alphabet qui va être adapté à l'environnement télégraphique. Mais incontestablement, vous avez raison, c'est la même tendance. C'est à partir du moment où on a des objets simples qui se gèrent comme des lettres, par exemple l'alphabet morse, ou ultérieurement les alphabets des téléscripteurs, ce qu'on appelle l'alphabet Baudot, eh bien c'est à partir du moment où on a des objets simples comme ça qu'on peut imaginer de faire intervenir la cryptographie.
Ces machines chiffrantes, elles vont être perfectionnées pendant plusieurs années. Et combien de combinaisons on peut réaliser avec ces machines et est-ce qu'on peut facilement déchiffrer ces machines ?
Alors on peut réaliser des centaines de millions de combinaisons. Et naturellement, si on vous met devant une machine, si vous ne connaissez pas la clé, c'est-à-dire les données secrètes qu'il faut introduire pour configurer la machine et puis pour qu'ensuite elle permette de restaurer les messages que vous avez reçus, eh bien, si vous ne connaissez pas ça et que vous êtes devant cette machine, eh bien, vous ne savez rien faire. Sauf naturellement si vous entreprenez un très très long travail de cryptanalyse.
Mais alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, si c'est possible, en quelques mots, comment cette machine va réussir à crypter un message ? C'est comme un coffre-fort ?
Je vais prendre un exemple parce qu'on parle de machine, mais il y a eu plusieurs modèles, de très très nombreux modèles même de machines. Donc il y en a une qui est très connue et très célèbre, qui s'appelle la machine Enigma, qui était celle que l'armée allemande utilisait pendant la guerre. Et encore, on parle de la machine Enigma, mais il y en avait plusieurs modèles, la marine n'ayant pas la même machine que l'armée de terre. Dans cette machine, eh bien, si vous la regardez, vous constatez qu'il y a un certain nombre de rotors, de roues dentées, et un certain nombre de fiches, un petit peu ce qu'on voyait dans les centraux téléphoniques dans les années 50, et qu'on voit dans les vieux films, par exemple. Et ces rotors et ces fiches peuvent être disposés d'un très grand nombre de manières, suivant la position où vous intégrez les rotors dans leur logement ou bien où vous réalisez des connexions à l'aide du système de fiches. Donc ça fait déjà beaucoup, beaucoup de combinaisons. Et à l'intérieur, comment ça marchait ? Eh bien, les rotors étaient des dispositifs électromécaniques, c'est-à-dire qu'ils avançaient et que sur chacun d'eux, les connexions électriques étaient telles qu'elles réalisaient une sorte de substitution de lettres, un peu comme Jules César. Mais tout cela était en mouvement et donc le mécanisme évoluait au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui rendait ces machines censément invulnérables. Au moins, c'était le point de vue des Allemands qui l'utilisaient.
Donc il y a un côté un peu aléatoire en fait, pour la personne qui ne connaît pas bien sûr les clés, qui n'a pas les clés.
Ah, ça c'est une question très très profonde, les liens entre ce qui est aléatoire et ce qui est déterministe. La cryptologie par nature elle est déterministe, puisque si elle n'était pas déterministe, elle aurait beaucoup de mal à récupérer le message qui a été chiffré. Mais c'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur, on pouvait imaginer que tout se passait de manière aléatoire.
Pendant combien de temps cette machine Enigma va-t-elle fonctionner jusqu'au jour où en fait on va réussir à comprendre, les adversaires vont réussir à pouvoir déchiffrer ces messages ?
Alors, elle a fonctionné pendant longtemps, fonctionnait déjà, je ne connais pas la date exacte où elle a été adoptée par l'armée allemande, mais elle fonctionnait déjà dans les années 30. Alors, l'histoire est assez longue, il s'est passé plusieurs événements, et ça s'est terminé effectivement en 1942 par une victoire complète des cryptanalystes. En 1942, les Alliés lisaient les codes allemands. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avant la guerre, il y avait déjà une équipe de mathématiciens polonais qui, à partir d'une machine Enigma, ça aurait été difficile de le faire à partir de rien, mais à partir d'une machine Enigma, dont les plans avaient, je crois, été communiqués par les Français, avaient imaginé une méthode d'attaque et ils avaient déjà construit des machines pour réaliser effectivement cette attaque. Et ils avaient porté ces connaissances qu'ils avaient, et ils les avaient partagées du moins avec leurs alliés français et britanniques. Ça se passait encore, je crois, au début de l'année 1940. Après, ce sont les Britanniques qui ont repris ce savoir-faire, mais entre-temps, le mode d'utilisation de l'Enigma avait changé, et donc la méthode d'attaque des Polonais ne marchait plus. Et les Britanniques avaient réuni à Bletchley Park, dans la banlieue de Londres, un très très grand nombre de spécialistes, mathématiciens, linguistes et autres, avec comme but de casser les codes allemands. Et donc parmi eux, il y avait le grand mathématicien britannique Alan Turing, qui est par ailleurs considéré comme un des fondateurs de l'informatique. Et dans cette équipe, animée par Alan Turing, eh bien, ils ont repris de fond en comble la cryptanalyse de l'Enigma, et ils ont inventé de nouvelles méthodes, ils ont construit de nouvelles machines, et c'est ce qui leur a permis de venir à bout des messages secrets chiffrés par l'Enigma, comme je vous l'ai dit, dans l'année 1942.
Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu lire dans votre livre que les cryptographes, après, se sont tournés vers des activités, on va dire, un peu plus lucratives, et va être créée aux États-Unis la fameuse NSA, où vont se retrouver une grande partie des cryptographes. C'est peut-être un détail qu'on ne sait pas forcément.
Avant de parler de la NSA, ce qu'on peut dire, c'est que la cryptologie et l'informatique sont intimement liés juste après la guerre. Il faut penser que c'est précisément le moment où l'informatique émerge. Et l'une des premières machines informatiques qu'on a construites, c'est en 1944 une machine qui s'appelle Colossus et qui a été construite à l'initiative de Turing lui-même et dans le but de casser encore des codes allemands. Ce n'était plus la machine Enigma, c'était d'autres machines, les machines Lorenz. Alors, quant à la fondation de la NSA, c'est vrai qu'il y a, dans les années 50, eu la volonté aux États-Unis de réunir beaucoup de gens qui s'occupaient des aspects techniques du renseignement. Et donc, la NSA s'est retrouvée un très grand employeur de mathématiciens. Mais je ne sais pas si c'est le côté lucratif qui attirait les mathématiciens. Peut-être que c'est le patriotisme des mathématiciens américains qui les poussait à rejoindre la NSA.
En tout cas, très vite, le système de la cryptologie, cryptographie, va intervenir dans la vie civile. Et je crois que la NSA va jouer un rôle assez important pour crypter, tout simplement, des informations au niveau des banques et des compagnies d'assurance.
Non, moi, je crois plutôt que la NSA a joué un rôle assez important pour essayer de freiner cette évolution, puisque on souhaitait, dans les années 50, que la cryptologie restât fortement dual et donc qu'il n'y ait pas de dissémination de la cryptologie. Donc ils ont effectivement concédé au monde civil un algorithme de chiffrement qui s'appelait le DES et dont beaucoup de chercheurs, dès sa création, dès sa mise en sa normalisation dans les années environ 75-77, dont beaucoup de chercheurs pensaient qu'il était sous-dimensionné pour faire une sécurité véritable.
Mais actuellement, est-ce qu'on se sert encore de ce fameux DES ?
Alors, le DES, il a été réformé après pas mal d'années de bons et loyaux usages. Et donc, le grand défaut du DES, c'était, comme je vous l'ai dit, qu'il était sous-dimensionné. Ça veut dire que la taille de ses clés était limitée. Et donc, il était imaginable, évidemment, pas pour monsieur tout le monde, mais peut-être pour des entités avec de très gros moyens, il était imaginable d'explorer toutes les clés, c'est-à-dire de prendre la clé numéro 0, la clé numéro 1, la clé numéro 2, etc., jusqu'à les avoir essayées toutes. Et on s'arrêtait quand on avait trouvé la bonne. On a pu, dans le milieu ouvert, le démontrer, mais bien après, en 1998. Donc c'est vrai que pendant 20 et quelques années, eh bien, on le soupçonnait, mais on n'était pas capable de le démontrer. Alors le DES, il reste utilisé sous la forme de ce qu'on appelle le triple DES, qui est un enchaînement de 3 fois l'algorithme DES. C'est quelque chose qui est considéré comme sûr, qui n'est pas à l'état de l'art, en ce sens que c'est un algorithme qui est lent. Ben oui, il est lent, parce que le DES avait été conçu pour être relativement rapide, mais si vous le faites 3 fois, c'est naturellement beaucoup plus lent.
Alors, vous parliez de Turing, qui était donc un des pères, en tout cas, de l'informatique. Eh bien, nous allons reparler de l'informatique, puisque c'est ce qui est utilisé, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve, en tout cas, au niveau de la cryptologie, au niveau de l'informatique. C'est en 1976 qu'apparaît le fameux tout crypté, en fait.
Oui, c'est-à-dire l'informatique, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1976, avait fait son chemin. Et c'est pas seulement les informaticiens qui travaillent sur des questions qui sont proches des mathématiques, bien entendu, qui ont fait avancer l'informatique. C'est aussi les physiciens. C'est parce qu'on a inventé le transistor qu'on a pu avoir un beau jour des machines sur notre bureau. Mais en tout cas, dans les années 70, eh bien, ce qu'on connaît aujourd'hui était en gestation, en préparation. Il y avait déjà Internet, on ne l'imagine pas, sous forme de quelque chose qui était très limité, mais on avait, sur le plan universitaire, on avait déjà fait l'expérience d'envoyer un message électronique, bon, d'un bout à l'autre de la baie de San Francisco, mais c'est déjà pas mal. Et dans ce contexte, ceux qui savaient, qui étaient familiers de ces développements, comprenaient bien que puisqu'on envoyait des messages sur des liens qui étaient non protégés, donc éventuellement qui pouvaient être l'objet d'attaques, eh bien, il allait falloir protéger ces liens et que la seule méthode qui allait devoir s'imposer, c'est la cryptologie. Mais là se posait un vrai problème. Quand on voit la cryptologie de manière duale, eh bien, il n'y a pas de problème parce que les militaires savent très bien organiser une infrastructure qui va créer des clés, mettre les clés à la disposition des utilisateurs, les révoquer parce qu'une clé qui est trop longtemps en circulation, évidemment, il y a un risque de compromission qui en résulte. Mais au moment où on a imaginé une application purement civile, et surtout on imaginait, il n'y avait pas de web à l'époque, mais malgré tout l'Internet en émergence, eh bien à partir du moment où on imaginait un monde ouvert, on ne pouvait pas concevoir d'appliquer à ce monde ouvert l'organisation qui pouvait prévaloir dans l'univers militaire ou diplomatique. Et donc, on a réfléchi à quelque chose qui pouvait paraître paradoxal. Est-ce qu'on peut se parler de manière confidentielle sans s'être une première fois rencontré pour échanger un secret, un mot de passe, une phrase codée, une phrase qui permette ensuite de travailler confidentiellement? Et c'est en 1976 que ce paradoxe a été résolu. Et c'est pour ça que j'ai appelé la troisième partie de l'histoire de la cryptologie, l'âge paradoxal.
L'âge paradoxal avec l'apparition du système RSA, donc qui porte en fait les initiales des trois chercheurs qui ont inventé ce système. Mais là, on est en 1978, on n'est plus en 76.
Oui, ça s'est fait en deux temps, 76 puis 78. En 76, deux chercheurs américains, Whitfield Diffie et Marty Hellman, ont conçu abstraitement le concept de cryptologie asymétrique ou cryptologie à clé publique. Donc la cryptologie asymétrique, c'est une cryptologie où deux partenaires ou deux entités qui veulent s'échanger un message secret ne commencent pas par se mettre d'accord sur une clé secrète. Donc la cryptologie asymétrique, elle est asymétrique. L'un des deux joue un rôle particulier. Il crée une clé secrète, mais qui est à lui. Et puis un objet correspondant qu'on appelle la clé publique, mais qu'il peut publier, dont la connaissance ne permet pas d'accéder à la clé secrète. Et une fois qu'il a fait ça, tout le monde peut lui envoyer des messages, mais que lui seul peut lire. Ça, c'est ce qui s'est passé en 1976. En 1978, eh bien, on a prouvé que le concept pouvait être réalisé, parce que Marty Hellman n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout. Ils n'étaient pas très loin, mais ils n'avaient pas été jusqu'au bout. Et ça, c'est l'invention du système de cryptographie à clé publique RSA, par Ron Rivest, Adi Shamir et Len Haldeman, les trois initiales RSA. Et c'est le premier exemple et le principal exemple d'une méthode de chiffrement à clé publique.
Et alors là, je ne peux que vous citer, donc à la fin de cette troisième partie donc de votre livre, vous dites que l'on puisse échanger des messages inintelligibles aux tiers est fascinant, que de plus on puisse y parvenir en utilisant un mécanisme décrit in extenso dans un annuaire accessible à tous, semble quasiment magique. C'est vrai que quand on y pense, ça paraît bien curieux.
C'est pour ça qu'on est dans le paradoxe, mais c'est aussi pour ça qu'on a eu recours à des mécanismes mathématiques qui allaient au-delà de ce qui était utilisé auparavant en cryptographie. Mais une fois que le paradoxe est résolu, une fois que l'invention est faite, après tout, c'est assez naturel. Ce qu'on demande, ça n'est pas qu'il soit impossible de chiffrer, c'est qu'il soit impossible de déchiffrer. Donc il était naturel que la cryptologie à clé publique fût inventée un jour.
Alors aujourd'hui, ce système RSA, on le retrouve où dans notre vie de tous les jours? Pour le paiement sur Internet par carte bancaire, par exemple, ou est-ce que l'on peut le retrouver dans la vie?
Aujourd'hui, chacun d'entre nous porte en permanence sur lui deux processeurs cryptographiques. L'un dans le téléphone portable et l'autre dans la carte de crédit. Alors dans le téléphone portable, il n'y a pas... pour des raisons de consommation de la batterie, disons, il n'y a pas de RSA, parce que RSA est un peu gourmand en puissance de calcul et donc il risquerait d'assécher vos batteries un peu rapidement. Par contre, dans les cartes bancaires, il y a RSA. Quand vous faites des achats sur Internet et que vous allez sur un site qui vous offre une connexion sécurisée, il y a RSA. Donc, quand vous payez vos impôts en ligne... Il y a RSA, cette fois-ci, pas seulement pour garantir la confidentialité, mais aussi pour garantir l'authenticité de la transaction, c'est-à-dire que vous émettez ce qui s'appelle une signature électronique, et la signature électronique utilise également RSA. Donc on peut vraiment parler d'ubiquité de la cryptologie. Il y a de la cryptologie partout, sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte, mais ça c'est très bien.
Alors, il y avait trois âges, hein, âge artisanal, âge technique, âge paradoxal. Est-ce qu'il y aura un quatrième âge?
Je crois que s'il y a un quatrième âge, c'est ce que je viens de mentionner, l'ubiquité de la cryptologie. Aujourd'hui, on l'a déjà dans de nombreuses applications. Demain, on va l'avoir dans d'autres applications, par exemple dans la protection des contenus, par exemple dans le vote électronique. Et aussi, on aura... la cryptologie, pour quelque chose qui est extrêmement important au regard des libertés publiques, c'est la protection de nos données personnelles, médicales notamment. Nous avons des gigantesques bases de données qui se constituent et qui contiennent un certain nombre de données à laquelle nous tenons, qui sont les données de notre vie. Et ces données, nous avons le droit d'exiger qu'elles ne soient accessibles qu'à ceux qui ont le besoin d'en connaître. Eh bien, pour réaliser ça, pour que cette exigence soit satisfaite, il va falloir évidemment utiliser la cryptologie.
En fait, ce sera plus une extension de l'utilisation de la cryptologie plutôt qu'une nouvelle ère de nouvelles méthodes.
Dans les 30 dernières années, la cryptologie a fait un certain nombre de découvertes qui, peut-être sans être aussi... surprenante ou importante que la découverte initiale de la clé publique, ont été des avancées majeures. On ne peut pas faire une révolution tous les ans. Mais il y a eu régulièrement des progrès importants. Donc je pense que ces progrès importants vont continuer et peut-être qu'il y aura une nouvelle révolution, nous verrons.
Eh bien, merci Jacques Stern de nous avoir reçus dans votre bureau à l'École normale supérieure à Paris. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet www.canalacademy.com et puis également retrouver des informations sur l'École normale supérieure sur le site internet de l'École normale supérieure, l'ENS. Merci et à très bientôt. Merci Jacques Stern.
Au revoir.